Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et à 22h31, nous accueillons Capucine au 39-21. Bonsoir Capucine.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Capucine et quel âge avez-vous?
Alors, je vous appelle de Nantes et j'ai 22 ans.
Nantes, et vous avez 22 ans, de cette bonne vieille ville de Nantes. Cher à Pascal Pro, notre confrère Pascal Pro, qui parle souvent de Nantes. Il est nantais, remarquez, c'est normal. Mais pour y avoir passé quelques temps aussi à Nantes, vous avez bien de la chance, c'est une bien belle ville.
Oui, en effet.
De quoi allez-vous nous parler, Capucine?
Alors, je vais vous parler des violences conjugales, et plus particulièrement des violences conjugales chez les très jeunes couples et les adolescents.
Oui. D'accord, vous en avez été vous-même victime?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que du coup, j'essaie de parler de ce sujet pour informer. Et effectivement, moi, j'en ai été victime du coup entre mes 15 et 18 ans, donc toute ma période du lycée en fait.
D'accord. Avec un même garçon, j'espère, pas plusieurs?
Oui, c'est ça, un même garçon avec qui je m'étais mise en couple à la fin du collège et on est resté ensemble du coup jusqu'à la fin de la terminale.
D'accord, donc vous avez quel âge quand vous le rencontrez, Capucine?
Alors je l'ai rencontré quand j'étais en quatrième, donc je devais avoir 13 ans.
Oui.
Et à ce moment-là, on est tombé dans la même classe et du coup c'était quelqu'un qui me plaisait beaucoup, je lui plaisais aussi et on était sortis ensemble à peu près 2 mois quoi, en début de quatrième.
Oui.
Après on s'était séparés et moi j'étais toujours très amoureuse de lui, enfin vraiment le premier amour quoi. Et j'avais très envie qu'on se remette ensemble et finalement du coup on s'est remis ensemble. Un peu plus d'un an après, donc à la fin de la troisième. Donc là, on avait 14-15 ans, quoi.
D'accord. Donc quand vous vous remettez ensemble à l'âge de 15 ans, que se passe-t-il en fait? Ça va bien au début?
Oui, au départ, ça allait bien. Du coup, on s'est remis ensemble juste avant les vacances d'été. Donc, on ne s'est pas énormément vu pendant les vacances, mais ça se passait très bien. Il était très gentil avec moi, très amoureux, adorable. Enfin, il n'y avait pas de problème.
Oui.
Et c'est ensuite, quand on est rentré au lycée, que les choses ont commencé à moins bien se passer, où il a commencé à être... à avoir un caractère hyper colérique, à me faire des crises, à être hyper jaloux, possessif, à m'empêcher de voir mes amis. Enfin, voilà, tout ça, ça a vraiment commencé au moment du lycée, en fait.
D'accord. Comment se comportait-il? Il était déjà violent ou ça n'était que des mots au début?
Bah alors les violences, elles sont venues vraiment progressivement. Au départ, c'est vrai que c'était vraiment plus des violences psychologiques.
Oui.
L'idée pour lui, c'était vraiment de m'isoler des autres, en fait, et de pouvoir faire en sorte que je sois toute seule et que j'ai que vers lui, pour pouvoir me tourner si j'ai un problème ou quoi. Donc, il était assez désagréable avec mes amis. Il me disait que je ferais mieux de pas passer du temps avec elles, qu'elles étaient nulles par rapport à moi. Enfin, voilà, beaucoup de choses comme ça. Il voulait qu'on passe tout notre temps ensemble, donc tous nos week-ends, on devait être ensemble, tous les midis. On devait manger ensemble, parce que du coup, on était dans le même lycée, mais on n'était pas dans la même classe. Et du coup, il profitait de cette excuse un peu pour me dire « bah ouais, mais je te vois pas assez, donc maintenant, à partir de ce moment-là, tous les midis, on va manger que tous les deux, tu mangeras plus avec tes copines. » Donc en fait, c'était plein de petites choses comme ça qui se faisaient au fur et à mesure.
Oui.
Et où au final, moi, je pensais que c'était parce qu'il était amoureux, parce que voilà, lui, il allait me dire « bah non, mais si je veux passer tout ce temps avec toi, c'est parce que je t'aime vraiment, que t'es la femme de ma vie, que je te vois pas assez, etc. » Et je me disais « bon, bah, c'est un amour hyper passionnel, c'est le début, et peut-être que c'est normal qu'il soit comme ça. » Et du coup, j'en souffrais un petit peu dès le départ. Mais je me disais peut-être que c'est normal et que ça va passer avec le temps, en fait.
Et ça n'a pas passé.
Ça
n'est pas passé, pardonnez-moi.
Pas de souci. Non, ça n'est pas passé, effectivement. Et puis, ça a même plutôt eu tendance à se dégrader. Parce que du coup, les violences psychologiques, elles ont continué. Il a commencé à être assez... désagréable avec moi à certains moments, à vraiment essayer de miner toute ma confiance en moi. Et puis, on sait bien que déjà, l'adolescence, c'est une période un peu difficile où on n'a pas vraiment confiance en soi. Donc, c'était d'autant plus compliqué. Voilà, il allait me faire des réflexions sur mon physique. Par exemple, me dire « Oh, ben là, t'as pris un peu de poids, c'est vraiment dégueulasse. Là, t'es pas bien épilée. Si je mettais un décolleté, il allait me dire que je m'habillais comme une pute. Mais contre, si je m'habillais un peu trop classique, il allait me dire « On dirait une princesse. » Donc, en fait, c'était jamais assez bien pour lui. Du coup, il était ultra oppressant par rapport à ça. Il était hyper désagréable aussi par rapport à mes proches d'une manière générale, mais surtout les proches qui, pour lui, étaient une menace potentielle, c'est-à-dire que c'est des personnes à qui j'aurais pu me confier éventuellement que ça n'allait pas. Oui. Et du coup, il a vraiment essayé de m'éloigner de ces personnes-là, donc notamment ma meilleure amie et ma petite sœur, où il était vraiment... désagréable, pas avec elle directement, mais moi, quand il me parlait d'elle, etc., il essayait vraiment de m'en éloigner. Mais par contre, à côté de ça, avec ma famille notamment, il était irréprochable, il était adorable, hyper gentil, il jouait avec mon frère et ma sœur. Il était, parce qu'en plus, il venait pratiquement tous les week-ends chez nous, vu qu'on était adolescents. Et franchement, il était adorable, il y avait rien à signaler. Donc voilà. Après, par contre, devant mes amis, il était un peu moins irréprochable et il pouvait avoir tendance à être un peu désagréable avec moi, à me faire des réflexions pas très drôles, mais qui lui le faisaient rire. Oui. Et justement, mes amis étaient un peu étonnés parce qu'elles me disaient « Mais c'est bizarre, t'as vachement de caractère et lui, tu lui dis rien. Oui. » Voilà, c'est ça.
Quel profil il a, ce garçon, à cet âge-là? Quelle famille? Quel niveau social? Comment vous le décririez psychologiquement?
C'était quelqu'un de niveau social à peu près comme moi, enfin je veux dire classe moyenne, rien de spécial.
Quelle éducation en fait a-t-il reçu de votre point de vue?
Éducation. J'ai pas connu non plus énormément sa famille, donc je suis pas sûre de pouvoir juger son éducation entre guillemets.
Non, mais c'était pas
curiosité. En tout cas, c'est vrai, je sais qu'il a pas forcément eu non plus. C'est quelque chose qui revient beaucoup, une question qui revient beaucoup, c'est quand on parle de violence conjugale, souvent les gens disent peut-être que cette personne-là aussi, elle a subi des violences, et c'est pour ça qu'elle est comme ça, etc. Et c'est vrai que ça peut arriver parfois, mais là, en l'occurrence, a priori, c'était pas le cas. C'était juste quelqu'un d'assez colérique, effectivement, et qui supportait pas la frustration. Mais a priori, c'est pas quelqu'un qui a déjà subi des violences dans
d'accord.
sa famille.
Quelqu'un qui est violent dès cet âge-là, déjà, fait preuve d'un manque de confiance en lui, hein, et c'est pour cela qu'il reportait tout cela sur vous et qu'il essayait de vous rabaisser. Hein, puisque il voulait dévier l'attention sur sa proie, qui était finalement qui était son amoureuse, et vous, en l'occurrence.
Ouais.
Et le souci, et c'est très bien que vous ayez le courage de nous appeler ce soir, parce que finalement, on n'entend pas souvent de très jeunes comme vous évoquer la violence conjugale, mais chez les jeunes, chez les ados, comme chez les jeunes adultes. Or, par expérience, je sais que les hommes violents que j'ai pu croiser au cours de mes enquêtes, dans les yeux d'Olivier, étaient déjà violents quand ils étaient jeunes.
Ouais. Bien sûr, en fait, quand on y pense, c'est assez logique. Un homme qui est violent à l'âge adulte, il ne se réveille pas du jour au lendemain
Certains,
passé à un certain âge.
Certains se réveillent,
mais
ceux qui sont violents, ceux qui sont violents en tout cas à cet âge-là, restent violents, voire deviennent plus violents. Parlez-moi des premières violences physiques, parce que vous évoquiez les violences psychologiques, mais on a peu évoqué... le premier coup, il vient quand et comment? Dans quelles circonstances?
Alors, les violences physiques, je pense qu'elles ont commencé à peu près au bout de peut-être 5-6 mois de relation. Et justement, c'était pas forcément des violences auxquelles on pense quand on parle de violences conjugales. Et ce que moi, j'avais en tête à l'époque aussi, quand je pensais aux violences conjugales, c'était pas des coups de poing, des gifles et tout, c'était pas des choses comme ça. C'était des choses un peu plus discrètes, entre guillemets. Par exemple, il me pinçait beaucoup le bras quand il était contrarié. Donc, ça pouvait être me pincer, ça pouvait être me pousser, me jeter des objets. Ou, par exemple, je me rappelle d'une fois où on était en vacances. Et là, c'est vraiment le premier souvenir de violence qui m'a vraiment marquée. Quand on était en vacances avec mes parents et on s'était éloignés tous les deux parce qu'il voulait que je le prenne en photo et il n'était pas satisfait parce que les photos ne lui convenaient pas.
Pauvre bonhomme.
Voilà, ah. Il était voilà et forcément c'était pas lui qui était pas bien sur les photos, c'était moi qui savais pas prendre les photos, qui était une bonne à rien, etc. Et donc il s'est énervé contre moi et moi je comprenais pas pourquoi il se mettait dans cet état-là. Et en fait au bout d'un moment il a enlevé sa chaussure et il me l'a jetée au visage. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai été hyper choquée parce que déjà, j'ai eu mal, premièrement.
Oui.
Et ça arrivait sous l'œil, donc voilà, j'avais un bleu, etc. Et en plus, je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça.
Bien sûr.
Voilà, je trouvais que sa réaction était complètement démesurée. Et du coup, à ce moment-là, bah, je m'étais mise à pleurer. Et lui, il m'a dit, t'as intérêt à trouver quelque chose, à trouver une excuse. Il a un peu paniqué, en fait, je pense, en voyant que j'avais une marque sous l'œil, etc. Et du coup, il m'a dit, t'as intérêt à trouver quelque chose parce que là, on va retrouver tes parents dans peu de temps. Donc, il faut que tu trouves une excuse parce que, évidemment, tu vas pas leur dire que c'est moi qui t'ai fait ça. Et du coup, j'avais dit à mes parents, vu qu'on était dans une forêt, j'avais dit à mes parents que je m'étais pris une branche d'arbre et que c'est pour ça que j'avais une marque sous l'œil. Et en fait, c'était tout le temps ça. À chaque fois que j'avais des marques sur mon corps, je trouvais tout le temps des excuses. Ou pareil, par exemple, quand il me pinçait, ça me laissait des bleus sur les bras. Et du coup, j'allais dire à mes copines quand elles voyaient les bleus, non, mais vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai la peau qui marque facilement, je me suis cognée, je suis maladroite. Enfin, je trouvais tout le temps en fait des excuses. Pareil, quand je me...
Pour le protéger.
Voilà, c'est ça, parce que je voulais le protéger et je voulais pas qu'on le voit comme une mauvaise personne. Parce que moi, j'étais persuadée, au fond de moi, je me disais, bon, ok, il a ces moments-là où c'est pas normal. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois dans une relation de violence conjugale, il y a aussi malgré tout une forme d'amour et il y a des moments où tout se passe très bien, etc. Et quand on est victime, on se raccroche énormément à ces moments en disant, bon, bah, en fait, certes, il y a des moments où il pète un câble, mais à côté de ça, il est quand même super gentil, tout le monde nous trouve mignons. Donc du coup, je me raccrochais vraiment à ça. Et puis en plus de ça, moi, je ne pensais pas du tout vivre des violences conjugales. Je ne savais pas ce que je vivais, mais je ne mettais pas de mots dessus. Et du coup, c'est vrai que ça ne m'a pas aidée non plus à me rendre compte de ce qui se passait.
On voit tout de même des contours très inquiétants, hein, des contours psychologiques très inquiétants de ce garçon. J'entends par là, bien évidemment, pincer régulièrement. Le geste de pincer, en plus, ça fait mal pour qu'il vous marque. C'est qu'il vous pinçait fort. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est sa réaction après vous avoir balancé cette chaussure. Vous voyez, certains hommes violents, une fois qu'ils ont tapé et qu'ils voient leur femme ou leur compagne pleurer, tout de suite, ça le fait redescendre. Or, lui, ce qui est très inquiétant dans ce que vous nous décrivez, c'est que tout de suite, il continue à vous enfoncer en dire « t'as intérêt ». À trouver quelque chose pour raconter à tes parents.
C'est très dur. Ouais, c'est très dur, mais après, c'est vrai qu'il y avait aussi... c'est déjà arrivé aussi plusieurs fois qu'il y ait justement cette fameuse étape où il se met à pleurer, à dire qu'il est désolé, etc. En général, ça venait un peu après. Enfin, souvent, après avoir été violent, il allait d'abord me faire culpabiliser en fait, pour ce qui venait de se passer, en me disant que... S'il avait réagi comme ça, c'était parce que c'était de ma faute, que j'avais mal fait quelque chose, que j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Enfin voilà, toutes les excuses étaient bonnes.
Comme d'habitude.
Pour renverser la culpabilité. Et ensuite, il allait à ce moment-là, une fois que moi je commençais à culpabiliser, lui, il allait s'excuser, se mettre à pleurer, etc. Voilà.
Ce qui est particulièrement frappant dans ce que vous nous décrivez, Capucine, c'est que vous parlez d'un jeune garçon, 16 ans. 17 ans, qui commet des actes dont on a entendu les mêmes versions, les mêmes mécanismes d'hommes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, d'hommes violents.
Ouais.
On va marquer une petite pause, d'accord ? Et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Si vous aussi, qui nous écoutez, vous avez envie de réagir au témoignage de Capucine, si vous aussi, vous avez vécu la violence au sein de votre couple, que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous l'ayez vécu il y a quelques années ou maintenant, n'hésitez pas, vous savez que vous pouvez à tout moment nous appeler au 3921. Disque d'accueil et puis vous appuyez sur le 1 pour nous parler directement ou vous nous écrivez au 739-21 suivi du mot nuit en lettres majuscules suivi d'un espace et vous nous dites que vous voulez intervenir à l'antenne et vous laissez votre numéro. Capucine, j'évoquais donc le processus, le mécanisme similaire avec des hommes violents. Je voulais vous poser une question et hop, elle est totalement, elle m'a totalement échappé. Il y a eu d'autres violences plus graves, je crois. Il y a eu des actes sexuels où vous étiez contrainte.
Oui, c'est ça. Il y a aussi eu du coup des violences sexuelles où là, c'était un petit peu comme tout en fait. Au départ, ça se passait très bien. Lui, c'était ma première fois. Moi, j'étais sa première fois. Enfin, voilà, c'était vraiment la découverte de la sexualité au lycée, de façon, ce qui est assez classique au final. Et au départ, tout se passait bien. Il était très gentil, très doux. Il n'y avait pas de souci. Et en fait, assez rapidement, c'est comme un peu tout le reste, vu que c'était quelqu'un qui supportait pas du tout la frustration. Il supportait pas du tout la frustration non plus dans le domaine de la sexualité. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à lui dire non pour une raison ou pour une autre, parce que j'avais pas envie qu'on couche ensemble ou de faire tel ou tel acte, peu importe, lui, il allait pas le supporter parce qu'il allait voir ça comme... je sais pas, un affront, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était une frustration qu'il ne supportait pas. Et du coup, soit il allait me forcer quand même à faire ce que lui voulait. Et du coup, dans ces moments-là, j'avais pas trop de choix. C'était soit je prenais sur moi et je me disais, je vais prendre sur moi, ça va être un peu, ça va être désagréable, mais. Au moins après ce sera fini, il va me laisser tranquille, ou alors je me disais non, là j'ai vraiment pas envie, je vais essayer de résister, etc. Mais sauf que quand j'essayais de résister et de lui montrer qu'en fait j'étais pas d'accord et que cette fois-ci ce serait non, dans ce moment-là il allait me le faire payer en fait. Et pour me le faire payer, ce qu'il pouvait le faire par exemple, c'était me forcer à rester allongée par terre pendant un temps indéterminé, où il allait prendre par exemple mon téléphone, etc., et m'empêcher de dormir en me mettant la lumière dans les yeux, ou voilà, ce genre de choses.
Il avait vraiment un côté sadique, hein. C'est
voilà,
il
pour
était
vraiment
grave,
me faire payer en fait le fait de lui avoir refusé quelque chose. Et puis pareil, je savais très bien que dans ces moments-là, il fallait que j'attende, parce que je savais qu'au bout d'un moment, il allait se calmer et il allait revenir normal entre guillemets, et que il allait arrêter, mais des fois ça pouvait durer plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, où je restais comme ça punie entre guillemets parce que j'avais pas voulu lui obéir. Donc effectivement, c'est vrai que des fois je me disais il vaut mieux que je prenne sur moi et que ce soit rapidement terminé plutôt que de subir ça en fait.
Il était grave quand même, hein, pour son jeune âge. Hein, quand même, c'est à la limite du sadisme ce qu'il vous faisait endurer quand même. C'était
oui,
un peu de la torture, quoi.
C'est sûr, effectivement. Après, pour avoir discuté du coup avec plusieurs autres jeunes femmes qui ont vécu la même chose, vu que je milite vraiment pour plus de reconnaissance,
oui.
De ce sujet. Mais du coup, j'ai pu discuter avec beaucoup d'autres jeunes qui ont été concernés. J'estime même des fois que ce que moi j'ai vécu, c'est pas si impressionnant par rapport à ce que d'autres personnes très très jeunes ont pu vivre.
Malheureusement,
donc c'est pas du tout un cas isolé. Il y en a vraiment énormément.
D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à ceux qui nous écoutent ce soir, celles qui nous écoutent, qui vivent la violence du haut de leur 14 ans, 15 ans, de n'importe quel âge, bien évidemment, mais vous qui nous écoutez, sans doute isolés, sans doute qu'isolé parce que étouffé par la honte, souvent, lorsqu'on vit cette violence, on ne parle pas, comme Capucine l'a évoqué tout à l'heure. Il faut parler. Parler à votre meilleure copine qui va en parler à ses parents. Parler à votre prof, celui qui est le plus sympa. Parler à un adulte en qui vous avez confiance. Ça peut être n'importe quel adulte, mais parler. Parce que vivre cette violence, c'est non seulement injuste, mais ça ne peut pas exister. Donc, vous serez aidé obligatoirement. Parlez. Et il y a, on vous donnera, à la fin du témoignage de Capucine, même un numéro de téléphone où vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Ça s'est terminé comment pour vous, Capucine, cette histoire ? Parce que, généralement, en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, cette histoire ressemble malheureusement à beaucoup d'histoires vécues par des adultes. On voit combien il est difficile de s'extirper des griffes de ce type de prédateur. Comment ça s'est fini pour vous ?
Alors, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce qu'en fait, il m'a trompée. Et du coup, ça a été un peu le déclic pour moi parce que je lui avais toujours dit à lui et même j'avais toujours dit à mes proches, etc. Moi, la chose que je ne supporterais pas dans mon couple, c'est qu'on me trompe. Pour moi, c'était vraiment une humiliation, alors que ça peut paraître un peu ridicule par rapport à ce qui se passait dans la relation, dans la vie de tous les jours. Mais pour moi, vraiment, la tromperie, c'était la limite à ne pas dépasser. Et du coup, il a dépassé cette limite.
Il vous a trompé en plus.
Oui, voilà, c'est ça.
Ah, lui, il a fait la totale quand même.
Voilà, la totale. Et pareil, au final, c'est quelque chose, un motif assez récurrent chez les auteurs de violence. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Et donc, du coup, heureusement, moi, je m'étais vraiment attachée à ça. Je m'étais vraiment dit, s'il me trompe, c'est mort, je m'en vais, je le quitte. Et j'ai vraiment réussi à me tenir. En plus, j'étais dans une période un peu difficile parce que déjà, c'était la terminale. On était à 2 mois du bac, donc un peu de stress. Je venais juste de perdre ma grand-mère. C'était assez soudain et je m'y attendais pas du tout. Et je fêtais mes 18 ans dans un mois. Enfin bref, ma vie, elle était un peu complètement chamboulée. Oui, oui. Et en fait, le fait de me dire qu'il m'avait trompée et qu'il était en train de me consoler, soi-disant, pour ma grand-mère, alors qu'il parlait en même temps à une autre fille, ça a été un peu le déclic pour moi. Je me suis dit, mais il faut vraiment être un monstre pour faire ça. Il faut vraiment ne pas avoir de cœur. Et donc, du coup, j'ai réussi à le quitter à ce moment-là. Et ça a été assez difficile parce qu'au final, pour moi, quand je l'ai quitté, j'étais très triste, forcément. Et lui, il n'en avait un peu rien à faire parce qu'il était persuadé que j'allais revenir. Et en fait, dès une semaine après que je l'ai quitté, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux sans pouvoir trop me l'expliquer parce qu'en fait, j'avais déjà complètement... mon cerveau avait complètement effacé ce qui s'était passé pendant la relation.
Oui.
Donc, je comprenais pas trop pourquoi j'étais aussi bien et je pensais que j'allais être triste pendant des mois. Voilà. Et au final, ça allait beaucoup mieux. Tout le monde me disait, mais c'est fou, t'as vraiment changé, t'es hyper lumineux, donc t'as jamais vu comme ça et tout.
Comment il était, pardonnez-moi de vous interrompre, mais comment était-il perçu par vos amis?
Il était perçu globalement. Je sais pas si les gens avaient toujours une très bonne opinion de lui. Il avait pas non plus énormément d'amis. Mais après, dans notre classe, qu'après on était dans la même classe en première et terminale, globalement ça va, il était assez apprécié. C'était pas non plus le gars qui était aimé de tout le monde, etc. Mais ça allait, quoi. Mais par contre, il y avait quand même plusieurs personnes qui le trouvaient assez désagréable avec moi, quand même.
D'accord. Donc en fait, il vous trompe. Au bout d'une semaine, vous allez mieux. Comment réagit-il?
Alors du coup, lui, à ce moment-là, quand il a vu que j'allais mieux, ça a été un peu insupportable pour lui parce que il se rendait compte qu'en fait, il perdait le contrôle et que il ne me possédait plus. Et du coup, à ce moment-là, il a complètement pété un câble. Il a commencé à me harceler de messages, d'appels. Je devais bloquer son numéro parce que il m'envoyait vraiment 15 messages à la seconde. C'était pas possible. Il a commencé à envoyer des messages à tous les membres de ma famille en leur disant qu'il était vraiment désolé de ce qu'il avait fait, que j'étais la femme de sa vie, qu'il fallait que je revienne avec lui. Il a envoyé plein de messages à ma petite sœur parce qu'elle a 4 ans de moins que moi, donc forcément elle est plus manipulable, en lui disant notamment qu'il fallait qu'elle me convainque pour que je revienne avec lui, etc. Quand pour les cours, parce que du coup on était dans la même classe, il séchait les cours. Du coup, bah c'était les profs me demandaient à moi de prendre ses cours et de lui amener. Il allait aussi m'envoyer des photos. Enfin, il allait en fait taper ses poings dans les murs et m'envoyer des photos de ses poings en sang.
Oui,
en
non, mais disant, il était secoué lui. Il avait un problème si, hein. Il avait un problème si. Non, mais vraiment là-bas, parce que je vais vous poser la question ensuite, mais oui, il essayait de, par tous les moyens, enfin, il refusait totalement de vous perdre. Vous étiez sa chose.
Ouais.
C'était
ça.
Surtout, ça n'était pas de l'amour. C'était vous étiez sa chose et tout à coup, le pauvre petit bonhomme, eh ben, on lui prenait son jouet. En tout cas, le jouet,
ouais,
vous l'avez pu.
C'est exactement hein ça. C'est tout à fait ça. Et il m'a même fait aussi du chantage au suicide, donc à me dire que si je revenais pas avec lui, il allait se suicider, que ce serait de ma faute, etc. Et ça, c'est pareil, c'est un motif ultra récurrent dans les séparations sur des sujets de violence conjugale. Et c'est pour ça aussi que c'est ultra dur de partir, parce que quand on a une personne qui nous dit « je vais me suicider si tu me quittes », bah, c'est hyper compliqué, en fait. Et au fond de soi, on se dit bah, « on sait jamais s'il le fait vraiment, qu'est-ce que je vais faire ?» Enfin, voilà, du coup, c'était vraiment une période très compliquée pour moi. Et heureusement, il ne restait plus beaucoup de mois avant la fin de l'année. Mais c'était vraiment, c'était vraiment difficile.
Oui. On voit qu'il y a déjà, comme je le disais tout à l'heure, tous les ressorts. C'est-à-dire que le contour, vraiment les contours psychologiques de ce garçon montrent... vous m'auriez parlé ce soir sans me donner votre âge. On aurait pu poser n'importe quel âge sur cette histoire. C'est ce qui,
ouais,
c'est ce qui est assez frappant. Mamie Tam Tam, une fidèle de la Libre Antenne, nous dit « Très courageux le témoignage de Capucine. J'ai connu ma première violence conjugale le 11 mars 1978, date du décès de Claude François, juste parce que j'avais dit que ça me faisait de la peine. J'embrasse Capucine. » On se retrouve dans quelques instants après l'info. Capucine, à tout de suite.
Europe 1, la Libre Antenne, Olivier Delacroix.
Heures passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien la Libre Antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit. Pour que vous compreniez bien la teneur de mes propos, c'est que Lola Kivoron, on l'a entendu il y a une quinzaine de jours, lors de la quinzaine de Cannes, tenir des propos donc sur le rodéo. Vous savez, le rodéo, c'est cette fameuse discipline où les jeunes roulent sur ces motocross, hein, sur la roue arrière. Et voilà, c'était assez c'était assez perturbant, je vous dis, d'entendre une jeune fille avec des accents, je vous dis, du 16e arrondissement de Paris, évoquer le rodéo qu'elle n'a connu que le temps de faire ce film, visiblement, vu ce qu'elle en connaissait. Nous sommes avec Capucine qui a vécu des violences conjugales, mais à l'âge de 15 ans, 16 ans, pincée, frappée, humiliée, je dirais même torturée, puisque cet homme vous infligeait des tortures et en plus des contraintes au niveau d'actes sexuels. Ça vous a passé par la tête à un moment de porter plainte contre lui, de raconter tout ça à vos parents? Est-ce que vous aviez conscience de la gravité de ce que vous aviez subi?
Alors, sur le moment de la relation, pas vraiment. En fait, il y avait des moments où, effectivement, je me rendais compte que les réactions qu'il avait étaient complètement démesurées et où je me disais, là, c'est pas normal et il faut que je parte. Mais d'un autre côté, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que c'était difficile de partir. Déjà, le fait que je ne conscientisais pas du tout ce que je vivais. En fait, à l'époque, je savais très bien ce que c'était les violences conjugales. Sauf que pour moi, les violences conjugales, c'était un couple marié avec des enfants qui vit ensemble, etc. Du coup, pour moi, c'était pas ça ce que je vivais. Et pareil, je savais très bien ce qu'étaient les violences sexuelles, puisque j'étais au lycée au moment de MeToo. Donc, j'en entendais beaucoup parler. Mais pour moi, c'est pareil, les violences sexuelles, ça ne pouvait pas être commis par le copain. Et du coup, j'avais un peu tous ces éléments, mais pas vraiment ce qu'il fallait. Et du coup, je n'arrivais pas à conscientiser ce que je vivais. Et puis, en même temps, j'étais quand même très amoureuse de lui. Et surtout que quand on est ado et que c'est le premier amour, on est hyper naïf. On a l'impression qu'on va vivre toute notre vie avec cette personne. Et du coup, je me disais que si je le quittais, j'allais jamais réussir à retrouver quelqu'un parce que, comme il me le disait si bien, j'étais nulle, j'étais pas intéressante, personne ne voudrait jamais de moi, etc. Et du coup, j'étais, c'est horrible de dire ça, mais j'étais vraiment résignée, quoi. Je me disais, bon, bah, je vais rester avec lui et puis tant pis, quoi.
Ouais. C'est là où on voit que lorsque ça arrive jeune comme ça, je pense que peu de jeunes ont les moyens de réaliser que tout ça est très grave. Donc, finalement, vous n'en avez parlé que très tard à vos parents. À partir de quand ont-ils été au courant de tout ça ?
Ouais, alors quand j'étais dans la relation, j'en ai vraiment parlé à personne parce que j'avais hyper honte de ce qui se passait et que je voulais pas qu'on le voit comme quelqu'un de méchant. Et la première personne à qui j'en ai parlé, c'est le copain que j'ai eu après lui et qui est toujours mon copain aujourd'hui. Où en fait, c'est en me mettant en couple avec quelqu'un d'autre que j'ai commencé à avoir des flashbacks de ce qui se passait avant et du coup à me rendre compte que c'était pas normal. Et du coup, je lui en ai parlé à lui pour la première fois.
Oui.
Et du coup, après, c'est lui qui m'a aidé en fait à prendre conscience que c'était pas normal, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est lui qui m'a redirigée vers des associations, etc. Où petit à petit, j'ai pu comprendre ce que j'avais vécu et ensuite commencer à entamer tout un travail déjà de déculpabilisation parce que j'étais persuadée que c'était de ma faute et de reconstruction par rapport à ce qui s'était passé. Donc j'ai vu des psychiatres, des psychologues, etc. Mais pour moi, il n'était toujours pas question d'en parler à qui que ce soit d'autre parce que, encore une fois, j'avais trop honte. J'ai mis beaucoup de temps déjà à en parler à mes amis qui avaient connu mon ex. Parce que je ne voulais pas qu'elle le sache et je voulais encore le protéger un peu, je pense. Et puis, au final, la première personne de ma famille à qui j'en ai parlé, c'est ma petite sœur. J'en ai parlé en 2020, à la fin du premier confinement, parce qu'elle avait l'âge que j'avais quand moi, ça a commencé. Et du coup, pour moi, en fait, c'était impensable de me dire qu'il pouvait lui arriver la même chose. Et je me suis dit, en fait, si je ne lui en parle pas, bah, je ne vais pas pouvoir la protéger et je ne vais pas pouvoir empêcher que ça lui arrive à elle aussi. Donc du coup, je lui en ai parlé et à ce moment-là, déjà, elle a été hyper choquée, évidemment, elle ne s'y attendait pas. Et elle m'a dit que vraiment, il fallait que j'en parle à nos parents, etc. Et au final, j'ai fini par en parler à mes parents en août 2020, il me semble. Donc ça fait déjà plus de 2 ans que j'étais plus avec mon ex.
Oui.
Et voilà, et après, j'ai déposé une plainte contre lui en octobre 2020. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées cette année-là. C'est aussi l'année où j'ai créé mon média, etc. Et je pense que ça m'a aussi aidée dans ma démarche, on va dire.
Vous avez porté plainte pour... votre plainte, elle comporte les viols aussi, les viols conjugaux ?
Oui, justement, ça a été... normalement, c'est plus là-dessus que va se pencher
la justice.
La plainte.
Oui.
Ouais.
Mais oui, parce que pour le reste, pour les viols conjugaux, ça va être parole contre parole, mais ce sont les faits les plus graves, finalement,
oui, voilà,
dont vous l'accusez. Vous avez porté plainte en 2020, vous avez des nouvelles de tout ça ? Est-ce que le procureur a suivi ou vous savez ?
Alors, j'ai eu des nouvelles en début 2021 où, en fait, j'ai dû revenir au commissariat pour refaire une plainte plus en détail, etc., où j'ai passé 4 heures au commissariat pour tout détailler, tout expliquer,
oui,
etc.
Oui.
C'était très long. Et ensuite, on m'a dit que la plainte allait être transférée au commissariat de sa ville à lui et que... il serait placé en garde à vue, etc., et qui devrait donner sa version des faits. Mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis, donc
il a peut-être été en garde à vue.
Peut-être, mais en tout cas, j'ai pas eu de nouvelles depuis un peu plus d'un an, du coup. Donc, je sais pas où ça en est. Dans tous les cas, moi, j'ai pas du tout porté plainte en me disant que ça servirait à quelque chose, parce que je sais très bien comment ça fonctionne et je sais très bien qu'en plus, j'ai aucune preuve concrète contre lui. Enfin, voilà, c'est vraiment du parole contre parole. En
oui,
plus,
oui, mais
mineurs,
il y aura une confrontation,
voilà.
Capucine. Et
oui,
c'est là
sûrement.
Où la justice se fera une idée un peu plus précise des choses, croyez-moi. Parce que si vraiment les choses sont faites sérieusement, il y aura une confrontation avec des policiers. Hein, et je pense que il faudra qu'ils soient très précis, comme vous l'êtes vous. Vous voyez ? Parce que vous avez bien en mémoire tout ce qui s'est passé. Donc il faudra que... Voilà, ça sera parole contre parole, mais généralement, il y a des choses qui ne trompent pas la police. Donc on verra, parce que certains passent au travers des filets, bien évidemment. Je rappelle pour vous toutes et vous tous qui nous écoutez que si vous êtes victime de violence, il y a le 3919. Arrêtons les violences. Arrêtonslesviolences.gouv.fr aussi, si vous devez écrire. Le numéro est 24 heures sur 24 pour signaler des violences dont vous avez été victime ou témoin, ou pouvoir bénéficier d'une assistance et de conseils. C'est anonyme, c'est sécurisé. Le site n'apparaît pas dans l'historique de navigation. C'est accessible également par service-public.fr où vous pouvez signaler une violence sexiste et sexuelle. Et puis il y a le 119, qui est le numéro d'appel gratuit pour l'enfance en danger, même dans le doute de violences commises sur un enfant, quelle que soit sa nature, même condition, 24 heures sur 24, intraçable. Et puis enfin, je vous signale le numéro d'appel anonyme et gratuit pour l'IVG et la contraception, 0800 08 11 11 08 00 08 11 11 39 19 donc pour arrêtons les violences, 119 pour l'enfance en danger, et 0800 08 11 11 pour l'appel anonyme et gratuit pour l'IVG et la contraception, pour être accompagné. Merci mille fois, Capucine. Aujourd'hui, dernière question, puisque il faut en parler, ce média, on vous trouve où exactement?
Alors du coup, j'ai créé en 2020 mon compte Over the Rainbow, donc Over comme les ovaires et The Rainbow. Et donc du coup, on me trouve sur Instagram où je milite pour le féminisme, pour les droits des femmes. Je parle beaucoup aussi de ce que moi j'ai vécu pour sensibiliser. Et j'ai aussi un podcast où j'interview des femmes qui viennent me raconter leurs histoires à elles. Et oui. Ça, c'est un podcast du même nom, donc Over the Rainbow, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc voilà un petit peu ce que je fais pour donner du sens à ce qui s'est passé malgré tout.
Ok, vous retrouverez toutes ces références sur notre groupe de parole et sur notre groupe Facebook de la Libre Antenne, hein, Olivier Delacroix, la Libre Antenne, si vous désirez vous-même témoigner. Et puis, on va vous remercier mille fois, Capucine, pour votre témoignage lumineux, courageux. C'est encore une goutte supplémentaire, mais qui, petit à petit, fait que ce combat contre les violences faites aux femmes, même s'il perdure, diminue. Et il nous faut, de toute façon, en parler pour mettre la pression sur nos gouvernants, pour durcir la loi contre ceux qui frappent et ceux qui violentent. Merci mille fois, Capucine.
Merci à vous.
Bon courage à vous et bon vent. Au revoir.
Et tenez-nous
au courant de la suite, surtout, hein, de la plainte.
Oui, bien sûr.
Merci,
au revoir.
Capucine. Merci. Au revoir.